Chapitre 49, la tristesse. Détruit les forces vives, le chagrin, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort. Le courage, l'espoir, la foi, la compassion, et l'amour favorisent la santé et prolongent la vie. Affaiblit la circulation, la tristesse nuit à la circulation du sang dans les vaisseaux et dans le système nerveux et gêne le travail du foie. Elle retarde le processus de la digestion et de la nutrition, et tend à scléroser la moelle dans tout l'organisme. N'arrange rien, le chagrin et l'anxiété ne sauraient guérir une seule maladie, tandis qu'en éclairant le sentier d'autrui, la gaieté et l'espérance sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Un guide en toutes circonstances, l'avenir, avec ses problèmes ardus et ses horizons incertains, ne doit pas accabler nos cœurs, ni faire chanceler nos genoux, et affaiblir nos bras. Qu'on me prenne pour refuge, qu'on fasse la paix avec moi, dit le Seigneur. Ceux qui se soumettent au Tout-Puissant et s'engagent à le servir ne seront jamais placés dans une situation pour laquelle il n'a pas pourvu. En toutes circonstances, si nous obéissons à sa parole, nous aurons un guide indéfectible. Quelle que soit notre perplexité, notre tristesse, notre deuil, ou notre solitude, nous aurons un surconseiller, un ami compatissant. Les appréhensions ne font qu'empirer les choses, nous vivons dans un monde de souffrance. Des difficultés, des épreuves, des tristesses nous attendent tout le long du chemin qui conduit à la patrie céleste. Mais pour beaucoup le poids des fardeaux de la vie est doublé par leurs continuelles appréhensions. S'ils rencontrent l'adversité et le découragement, ils croient que tout est perdu, qu'ils sont les plus à plaindre des hommes et que la misère les attend. Ils se rendent malheureux par leurs soucis, et jettent une ombre sur tout ce qui les entoure. La vie elle-même leur devient un fardeau. Mais cela n'est pas nécessaire. Il faut que ces malades fassent un gros effort pour changer le cours de leurs pensées, mais ce n'est pas impossible. Leur bonheur dans cette vie et dans la vie à venir dépend de la sérénité de leur esprit. Qu'ils cessent donc de s'imaginer des malheurs, et pensent aux bienfaits que Dieu a répandus sur leur chemin déjà ici-bas et au bonheur éternel qu'il leur réserve dans un monde meilleur. Ce qui jette une ombre sur le sentier d'autrui, il n'est pas sage de rassembler tous les souvenirs pénibles de sa vie, ses chutes et ses déceptions, pour en parler à d'autres et s'en lamenter jusqu'à ce que le découragement vous envahisse. Une âme découragée est entourée de ténèbres. Elle repousse la lumière divine et projette une ombre sur le sentier d'autrui. Cultivez l'optimisme, grandes sont les bontés du Seigneur à notre égard. Jamais il n'abandonnera ou ne délaissera ceux qui se confient en lui. Si nos épreuves occupaient moins de place dans nos pensées et nos conversations que la miséricorde et la bonté de Dieu, nous nous élèverions au-dessus de beaucoup de nos tristesses et de nos perplexités. Mes frères et sœurs qui vous engagez sur un sentier obscur, et pensez devoir suspendre vos harpes au saule comme les captifs de Babylone, chantons joyeusement nos épreuves. Vous allez me dire, comment chanter, avec de si sombres perspectives, ployant sous le fardeau de la douleur et du deuil? Mais est-ce que nos douleurs nous ont privés de l'ami tout-puissant que nous avons en Jésus? Est-ce que l'amour merveilleux que Dieu a manifesté en donnant son cher Fils ne devrait pas être un thème inépuisable de louanges? N'oublions pas d'ajouter des hymnes de reconnaissance aux requêtes que nous présentons au trône de la grâce. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Aussi longtemps que notre Sauveur est vivant, nous avons des motifs de gratitude et de louanges. Ne pas donner libre cours à sa tristesse. Message adressé à une famille endeuillée, comme Job, vous pensiez avoir des raisons d'être abattu, et vous refusiez d'être consolé. Était-ce raisonnable? Vous savez que la mort est un pouvoir auquel nul ne peut résister, mais vous avez fait de vos existences quelque chose de presque inutile à cause de votre tristesse stérile. Vos sentiments ont frisé la révolte contre Dieu. J'ai vu que vous vous absentissez sur votre deuil, et que vous donnez libre cours à votre émotivité, au point que les anges se cachaient la face et se retiraient à l'ouïe de vos manifestations bruyantes de tristesse. Lorsque vous vous laissez aller à vos sentiments, est-ce que vous vous souvenez que vous avez un Père dans les cieux qui a donné son Fils unique afin qu'il meure pour nous, et que la mort ne soit pas un sommeil éternel? Est-ce que vous vous souvenez que le Seigneur de la vie et de la gloire a traversé le tombeau et l'a illuminé de sa présence? Le disciple bien-aimé a dit, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. L'apôtre parlait en connaissance de cause lorsqu'il écrivait ces paroles. Mais quand vous donnez libre cours à votre tristesse irrépressible, votre attitude est-elle en accord avec le réconfort qu'elles expriment? S'apitoyer sur soi est une forme d'égoïsme, message adressé à un prédicateur, frère Tiréba, vous apitoyer sur vous-même est une forme d'égoïsme. Cela ne ressemble pas à l'apôtre Paul qui était un homme de douleur, mais qui accordait la dernière place à lui-même dans ses pensées. Il eut à subir des épreuves telles que vous n'en avez jamais connues, et que vous n'en connaîtrez jamais. Et cependant, il ne s'y absentissait pas, mais il exaltait la grâce de Dieu. Votre femme fut victime de la maladie, et elle en est morte. Votre chagrin fut aussi vif que pour toutes vos autres épreuves. Vous avez cultivé la tristesse dans votre cœur, vous vous êtes complu en elle. Vous avez permis à votre esprit et à vos pensées de nourrir égoïstement votre chagrin, au préjudice de votre santé. Après cela, la mort de votre fille fut assurément une rude épreuve, mais d'autres ont subi le même choc en des circonstances plus difficiles. Vous avez permis à cette épreuve de vous abattre. Vous vous y êtes absenti, vous en avez parlé, vous avez fait du mal à votre âme à cause d'une situation que vous ne pouviez ni changer ni améliorer. Affronter de telles épreuves comme vous l'avez fait est un péché. Je sais de quoi je parle. Si l'on permet à l'esprit d'être obscurci par la tristesse, les aliments ne peuvent être assimilés, et l'organisme n'est pas nourri comme il convient. La tristesse fait affluer le sang dans le cerveau, expérience. Personnel, tandis que je travaillais ainsi à parler et à écrire, je recevais de Battle Creek des lettres décourageantes. En les lisant, j'éprouvais un sentiment inexprimable de tristesse, allant jusqu'à l'agonie mentale, qui momentanément semblait paralyser mes énergies vitales. Pendant 3 nuits, je pouvais à peine dormir. Mon esprit était troublé et perplexe. Je cachais autant que possible mes sentiments à mon mari, et à la famille où nous vivions qui prenait part si affectueusement à notre peine. Nul d'entre eux ne connaissait mes problèmes ou mes préoccupations intérieures tandis que je me joignais à cette famille pour le culte du matin et du soir et que je m'efforçais de me décharger de mes fardeaux sur celui qui a le pouvoir de les assumer. Mais mes supplications montaient d'un cœur accablé par l'angoisse et mes prières étaient entrecoupées à cause d'une tristesse irrépressible. Le sang affluait à mon cerveau au point que souvent je chancelais et risquais de tomber. Je souffrais fréquemment de saignements de nez, notamment quand je m'efforçais d'écrire. J'étais finalement obligé d'y renoncer, mais je ne pouvais pas me débarrasser du poids de l'anxiété et de la responsabilité qui reposait sur moi. Une assurance bénie, êtes-vous rempli de tristesse aujourd'hui? Fixez vos yeux sur le soleil de justice. N'essayez pas de résoudre toutes les difficultés, mais fixez vos regards sur la lumière, sur le trône de Dieu. Qui verrez-vous? L'arc-en-ciel de l'Alliance, la promesse vivante de Yahvé. Au-dessous se trouve le propitiatoire, et quiconque se prévaut des richesses de la miséricorde auquel il a été pourvu et s'approprie les mérites de la vie et de la mort du Christ reçoit, au travers de l'arc-en-ciel de l'Alliance, l'assurance bénie d'être acceptée par le Père aussi longtemps que le trône de Dieu subsiste. La foi est ce dont vous avez besoin. Ne permettez pas que celle-ci chancelle. Combattez le bon combat de la foi et saisissez la vie éternelle. Si dur que soit ce combat, luttez à tout prix, car les promesses divines sont oui et amen en Christ Jésus. Mettez votre main dans celle du Christ. Il y a des difficultés à surmonter, mais des anges puissants en force coopéreront avec le peuple de Dieu. Tournez-vous vers Sion, la cité de nos fêtes. Une glorieuse couronne, une robe tissée sur les métiers du ciel attendent le vainqueur. Bien que Satan jette son ombre diabolique au travers de votre chemin et cherche à vous masquer l'échelle mystique qui unit la terre au ciel et sur laquelle montent et descendent les anges qui exercent un ministère auprès de ceux qui hériteront du salut, continuez à gravir votre sentier, avançant pas à pas vers le trône de l'être infini. Les voies de Dieu souvent impénétrables, si ceux qui sont auprès de vous n'essaient pas de détourner votre conversation et le cours de vos pensées, s'ils sympathisent avec tous vos sentiments comme s'il s'agissait de réalité, moins vous aurez de relations avec ce genre de personnes, mieux cela vaudra. Ce ne sont pas vos amis, mais vos pires ennemis. Le Seigneur veut que vous cultiviez la bonne humeur. Vous avez enterré des amis qui vous étaient chers. Moi aussi. Mais je ne me permets pas de poser la question, pourquoi m'as-tu jeté dans la fournaise? Pourquoi ai-je été affligé à plusieurs reprises? La réponse me parvient immanquablement, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Les desseins de Dieu sont souvent voilés de mystère. Ils sont incompréhensibles aux esprits limités. Mais celui qui voit la fin dès le commencement sait mieux que nous-mêmes. Nous avons besoin de nous purifier de notre attachement aux choses d'ici-bas, de parfaire notre caractère chrétien, pour que nous puissions revêtir la robe de la justice du Christ. Travailler pour les autres atténue la tristesse, dans sa sollicitude pour ceux qui allaient devoir affronter les préjugés, la haine et la persécution, l'apôtre, Paul, perdait de vue les souffrances personnelles qui l'attendaient. Il s'efforçait d'encourager et de réconforter les quelques chrétiens qui l'accompagnaient jusqu'au lieu de son exécution en leur rappelant les promesses destinées à ceux qui sont persécutés pour la justice. Il leur assurait que tout ce que le Seigneur avait promis à ses enfants fidèles et éprouvés se réaliserait. Pour un peu de temps, il risquait d'être angoissé par de multiples épreuves, d'être privé de confort matériel. Mais ils pourraient fortifier leur âme par l'assurance de la fidélité de Dieu en disant, « Je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Bientôt, la nuit de l'épreuve et des souffrances arriverait à son terme, et l'aube du glorieux matin de paix et du jour parfait se lèverait. Les meilleurs consolateurs, ce sont souvent ceux qui ont connu les plus grandes souffrances qui savent le mieux consoler, apportant partout leur rayonnement. Châtiés et adoucis par leurs afflictions, ils n'ont pas perdu leur confiance en Dieu au milieu de leur détresse, mais se sont accrochés à son amour protecteur. Ils sont des preuves vivantes des tendres soins de Dieu, l'auteur des ténèbres et de la lumière, qui nous afflige pour notre bien. Le Christ est la lumière du monde. Point de ténèbres en lui. Précieuse lumière. Vivons sous cette lumière. Disons adieu à la tristesse et au murmure. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Un antidote contre la tristesse, Dieu a un baume pour toutes les blessures. Il y a un baume en Galaad, et aussi un médecin. Ne voulez-vous pas étudier les Écritures comme jamais auparavant? À chaque moment critique, recherchez la sagesse du Seigneur. À chaque épreuve, demandez à Jésus de vous indiquer une issue, pour que, vos yeux étant ouverts, vous aperceviez le remède et vous puissiez vous appliquer les promesses bienfaisantes contenues dans sa parole. De cette manière, l'ennemi n'aura aucun moyen de vous jeter dans les lamentations et dans l'incrédulité. Bien au contraire, vous trouverez foi, espoir et courage dans le Seigneur. Le Saint-Esprit vous communiquera le discernement nécessaire pour vous permettre de voir et de vous approprier chaque promesse qui sera un antidote à votre douleur, un rameau de guérison contre toute goutte d'amertume placée sur vos lèvres. Chaque goutte d'amertume sera tempérée par l'amour de Jésus. Au lieu de plaintes amères, vous constaterez que l'amour et la grâce de Jésus se mêleront à vos douleurs et les transformeront en une joie sainte, pleine de soumission. Ce qui cause l'angoisse de l'âme, c'est l'angoisse de se sentir privé de la faveur de son Père qui rendit les souffrances du Christ si aiguës. En proie à l'angoisse, sa sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre. Son angoisse terrible, causée par la pensée qu'en cette heure critique, Dieu l'avait abandonné, illustre l'angoisse que le pécheur éprouvera lorsque, trop tard, il s'apercevra que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. L'heure où les élus comprendront enfin, l'histoire de cette terre sera comprise par l'homme que lorsqu'il marchera aux côtés de son Rédempteur dans le paradis de Dieu. Car l'agneau qui est au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux.